Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute!
Il voulait d'abord et avant tout faire avancer les droits des Canadiens français. Fonctionnaire et membre de l'Église catholique, crée alors une société secrète. Pendant 40 ans, des milliers d'hommes passeront dans les rangs de cette société dont certains auront un impact important sur le cours de l'histoire canadienne. Ici Martin Labrosse. À Aujourd'hui l'Histoire, l'Ordre de Jacques Cartier, aussi surnommé La Patente.
J'ai accepté d'adhérer à ça parce qu'on m'a fait comprendre que c'était une association qui, avant tout, voulait défendre notre parler français, nos traditions françaises du Manouesca, du pays. Et en défendant, je comprenais d'avance, je savais ça d'avance, en défendant les traditions françaises, on défendait notre foi, hein, parce que ça s'enchaîne.
Témoignage d'un membre de l'Ordre de Jacques Cartier daté de 1978 à l'émission Esquisse de l'Acadie. La défense des droits des francophones au pays et de la foi catholique sont au cœur des activités de cette société secrète. Fondée en 1926 à Ottawa, la Patente choisissait soigneusement ses membres. Ils étaient tenus au secret le plus complet.
L'Ordre de Jacques Cartier, si ça a été secret, c'est probablement parce que dès le début, vous vous occupiez de choses qui étaient plus ou moins légales à l'époque, comme par exemple s'opposer à, je pense au nom, au plébiscite, s'opposer à la conscription.
Oui. Disons que c'était le cadre, c'était l'organisme qui devait donner des directives. C'était une formule qui est vieille comme le monde. Des sociétés secrètes, il y en a eu et il y en a encore. On avait fondé à l'origine cette société secrète à Ottawa, dans le milieu fédéral, pour protéger les intérêts des fonctionnaires canadiens-français. Ça, c'est l'origine de la patente. Par la suite, c'était pour grouper tous ceux qui occupaient des postes dans différents organismes. La patente était un groupe de pression, était un corps intermédiaire. C'était l'organisme qui donnait la directive.
Une franc-maçonnerie.
Ah, c'était exactement la franc-maçonnerie catholique de l'époque.
Est-ce que c'était important, à un moment donné, sur la patente?
On peut
en commencer à en donner des petits secrets sur la patente.
Il y a eu enfin, un certain nombre de choses qui ont été dites, qui ont été écrites. Je considère, pour y avoir participé, et très longtemps, pour avoir été mêlé à une foule de problèmes et de questions à l'époque, que la patente a certainement été le mouvement le plus important pendant une période de 25 ans dans l'histoire du Québec.
En nombre de membres?
Ah, c'est pas le nombre qui comptait.
Je sais.
C'est le rôle que chacun jouait dans un milieu donné.
Jules Zénon-Léon Patenaud, membre de la patente, et le journaliste Pierre Paquette discutaient à l'émission Feu vert le 20 septembre 1973. Pour revisiter cette époque, on va retourner là où tout a commencé, dans l'Ordre de Jacques Cartier, c'est-à-dire à Ottawa, dans nos studios, par exemple, en 2023, retrouver Hugues Théoret, qui est historien et auteur. Bonjour, Hugues Théoret.
Bonjour.
Alors, les sociétés secrètes, ça a quelque chose de quand même assez mystérieux et de captivant là, pour tout le monde, on va se le dire. L'Ordre de Jacques Cartier. Expliquez-nous un peu comment tout ça est né.
Bien, en fait, les sociétés secrètes ont toujours existé. Là. Ça remonte très loin. Là.
Ouais.
Vous avez fait référence à la franc-maçonnerie qui est née finalement en Europe là, dans les années 1600 en Angleterre. Ce qu'on peut dire, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y en avait pas pour les Canadiens français. Puis il faut se reporter dans les années 10-20. Il faut dire qu'il y avait le contexte de l'époque, les Canadiens français subissaient beaucoup là, au Canada toute forme de discrimination. On pense à la crise de la conscription de 1917-18. Le règlement 17 en Ontario, d'ailleurs, qui avait été adopté en 1912 pour interdire l'enseignement en français dans les écoles. Puis d'ailleurs, c'est dans cette foulée-là que le journal Le Droit a été fondé en 1913. Il y a aussi le fait aussi que les emplois de la haute fonction publique fédérale, toujours ici à Ottawa, n'étaient peu ou pas accessible aux Canadiens français. Je prends par exemple le journaliste Jules Fournier, écrivait en 1908, il dénonçait le fait que à Ottawa, autour du Parlement, tous les pelleteurs de neige, les balayeurs, les messagers étaient tous des compatriotes de Wilfrid Laurier. Donc, mais il ne voyait pas des gens haut placés, à part le premier ministre, là, occuper des hautes fonctions de l'État. Donc, On peut dire que dans ces années, les années 20, il était temps plus que jamais que les Canadiens français se dotent d'une société, secrète, un peu comme les francs-maçons l'avaient chez les anglophones. Comme vous l'avez dit en introduction, pour favoriser l'avancement, la défense des intérêts des Canadiens français et aussi l'avancement des leurs, hein, comme mm-hmm. c'était le cas chez les anglophones avec la franc-maçonnerie. On peut penser aussi au chevalier de Colombe, qui était à l'époque encore connu surtout sous les Knights of Columbus, qui était surtout réservé aux Irlandais catholiques anglophones, et pour les plus extrémistes anglophones, les orangistes, l'Ordre d'Orange.
Alors, qui est derrière la fondation de l'Ordre de Jacques Cartier?
En fait, c'est intéressant de noter que les fondateurs de l'Ordre étaient deux ingénieurs d'Ottawa qui étaient très liés avec la fonction publique, Charles-Albert Ménard, Émile Lavoie, et aussi le curé François-Xavier Barrette, qui était le curé de, si vous voulez, d'une paroisse de Eastview, connue sous le nom d'aujourd'hui du quartier Vanier. Puis il y avait aussi Esdras Terrien, qui était un des fondateurs du journal Le Droit. Donc, c'est surtout c'est autour de ces quatre personnages-là, très clés dans l'histoire, qui vont fonder l'Ordre de Jacques Cartier en 1926, qui avait justement remarqué que les Canadiens français n'avaient pas de société, n'avaient pas d'organisme. Mm-hmm. Oui, il y avait la Société Saint-Jean-Baptiste. On n'enlève pas l'œuvre des Sociétés Saint-Jean-Baptiste, fondée par Ludger Duvernay dans les années 1840, mais c'était plus pour l'avancement, la défense de la culture canadienne française. Ce n'était pas une société secrète, c'était pas un mouvement politique à l'époque qui était aussi fort pour concurrencer, entre guillemets, si vous voulez, avec la franc-maçonnerie qui était fortement là, occupée par les anglophones.
On va écouter ensemble, si vous le voulez bien, une fois de plus, Jules Zénon, Léon Patenaude, qui explique sa version, lui, de ce qu'est la patente à l'émission Présent Dimanche en février 1983.
La majorité des gens à l'époque, l'ordre est composé de ce que j'appellerais de notables.
C'est ça. Justement, quel est le profil social
alors,
du membre?
Bon, ce sont les notables, disons, dans les milieux ruraux, les notaires, les avocats, le marchand général, le gérant de la caisse populaire, le gérant de la coopérative, le directeur de l'école, etc. C'est une société, on a dit secrète. C'est vrai parce qu'elle n'était pas connue. Et quand ce sera connu, on parlera de la patente, on parlera d'une société. C'est une société, évidemment, secrète, entre guillemets. Mais c'est une méthodologie. C'est une façon de permettre de grouper dans une chaîne d'union, de grouper des gens en table ronde, de permettre à des gens de toute tendance et de toute opinion. Mais tendance, là, disons bien, selon les limites de l'époque. L'Ordre, donc, donnait des directives, donnait des mots d'ordre, entreprenait des campagnes. Bon, et pas seulement limité au plan du Québec, non, au plan, mais sur une foule d'autres questions.
Mais sans qu'on sache jamais que ces campagnes étaient animées par l'Ordre.
Jamais.
Alors, voilà pour l'aspect secret de l'Ordre et ce qu'il faisait. Et racontez-nous un peu, Hugues, comment ça fonctionnait, cette société-là, cet ordre-là? Il y avait un ordre bien établi là, à l'intérieur du fonctionnement.
Tout à fait. C'était tout sauf démocratique, il faut le dire, parce que l'Ordre était divisé en deux corps, si vous voulez, distincts. Il y avait la chancellerie, dont l'abréviation était CX. C'était en quelque sorte le conseil supérieur, l'autorité suprême de l'organisation, qui était la chancellerie, qui était située à Ottawa, qui était dirigée par le grand chancelier. Et il y avait aussi en parallèle des commanderies, donc l'abréviation XC, qui étaient un peu comme des divisions régionales qui étaient chargées du recrutement des membres, de l'organisation des réunions. Et la première commanderie de l'Ordre, bien sûr, a été créée à Ottawa, qui s'appelait la commanderie de l'Ordre, donc qui a été fondée en 1927. Et ça, c'est intéressant parce que, en fait, toutes les commanderies portaient des noms de figures importantes de l'histoire canadienne-française où, il manquait de noms, là. Donc, on avait Maisonneuve, Jean Talon, Champlain, d'Iberville, La Vérendrye. Et là, plus que ça avançait, plus on était rendu à quelques centaines de commanderies, non seulement au Québec, c'est intéressant de le noter, très fortement concentré au Québec, mais beaucoup en Ontario, dans la région d'Ottawa, dans le nord de l'Ontario. Il y a aussi au Nouveau-Brunswick, surtout. Mais il y en avait aussi quelques-unes au Manitoba, Saskatchewan, Saskatchewan, dans l'Alberta. En fait, partout
là où il y avait,
avait
des francophones, des communautés
là
francophones.
Là où il y avait des francophones, ouais. Exactement. Donc, c'est ça. C'était très centralisé. Le pouvoir était très centralisé dans la chancellerie à Ottawa. Mais on avait des commanderies comme ça qui étaient créées là, dans toutes les communautés. Comme par exemple, à Montréal, on pouvait avoir plusieurs commanderies, comme la commanderie Ville-Marie, etc. Dans des villes moyennes, on pouvait en compter deux ou trois. Je pense Shawinigan, Valleyfield, bon, etc. Et petit à petit, on va retrouver des commanderies même dans des petites municipalités, là, presque des villages. Et ils étaient très actifs et ils recrutaient justement au sein là, de l'élite locale.
Donc, c'est comme ça que se faisait le recrutement. On allait voir, on allait chercher là, les gens qui avaient de l'influence dans leur milieu.
Exactement. Les membres étaient triés sur le volet. Hein. Les personnes là, qui étaient recrutées, là, soigneusement choisies, on devait s'assurer de leur foi catholique parce que faut comprendre que la devise de l'Ordre de Jacques-Cartier était religion, fraternité, discrétion. Trois concepts qui étaient très, très importants. Donc, la religion catholique, il fallait qu'il soit absolument croyant, pratiquant. Donc, c'est pour ça que les représentants du clergé, il y avait beaucoup de représentants du clergé qui faisaient partie de l'ordre. Bon, d'ailleurs, le curé Barrette était un de ses fondateurs. Les femmes n'étaient pas admises, donc c'était très, j'oserais dire, patriarcal. C'était l'époque, hein, les années 20, les années 30, les années 40. Et on était reçus que sur invitation. Donc, il fallait s'assurer des convictions de la catholique des candidats, de leur nationalisme, je ne parle pas de nationalisme nécessairement québécois, ouais. Nationalisme canadien-français, et surtout de leur discrétion. Les gens forts en gueule là, devenaient rarement de bons membres de l'Ordre de Jacques-Cartier. Il fallait être très discret, bien sûr, parce que c'était une société secrète et il fallait garder ça absolument secret parce que l'Ordre avait des ennemis.
Et parmi les membres, il y en a quelques-uns que l'on a connus après, qui ont poursuivi là, leur service, si on veut, dans le domaine public, en politique notamment.
En politique, parce que c'est intéressant de noter, oui, l'Ordre servait la cause de politiciens qui étaient déjà membres de l'Ordre dans leur carrière politique, mais il faut dire que l'Ordre aussi noyautait des conseils de ville, donc approchait littéralement des membres, okay? Mm-hmm. L'Ordre approchait des membres pour se présenter aux élections. Ce fut le cas, par exemple, de Jean Drapeau, qui va devenir maire de Montréal. On pense à Pax Plante, mais aussi à Québec, le défunt bien, ministre Pierre Laporte, puis encore plus près de nous, je dirais, au niveau dans le temps, les anciens premiers ministres du Québec, Jean-Jacques Bertrand, Jacques Parizeau, Bernard Landry, chez les ecclésiastiques, le cardinal Léger, beaucoup de journalistes, des membres de l'Action nationale, André Laurendeau, ça, c'était tous des gens qui étaient membres de l'Ordre de Jacques-Cartier, puis aussi chez nos confrères acadiens, hein, le célèbre premier ministre Louis Robichaud, qui va adopter, on le sait, la première loi sur les langues officielles en 1968. Donc, il est un membre de l'Ordre et quand il va être élu premier ministre du Brunswick, il va s'entourer d'Acadiens comme lui, qui étaient tous des membres de l'Ordre de Jacques-Cartier,
ah, oui.
Pour aider à faire avancer la cause des Canadiens-Français. Et comme on peut le noter, l'Ordre était très présent où les intérêts des Canadiens-Français étaient menacés. L'Acadie, la région d'Ottawa, donc partout où il y avait de la menace là, contre de la part venant des protestants, des anglophones, puis des organisations comme les francs-maçons, les orangistes. Bon, l'Ordre était très, très puissant et solide parce qu'il fallait se défendre, se battre contre ceux qu'on voyait comme des agresseurs.
Une fois qu'on avait recruté ces membres-là, ben il y avait un rite d'initiation dans l'Ordre de Jacques Cartier. On va laisser Lorenzo Lebel, qui a été chancelier de l'Ordre, nous parler justement des initiations. C'est dans une émission datée de 1969.
L'initiation même, que l'on appelait Vabda, voyage au pays des ancêtres, initiation tout à fait inoffensive. Par exemple, l'épreuve du feu, l'épreuve de l'eau, l'épreuve de la coupe d'amertume, l'épreuve de l'équilibre.
Qu'est-ce que représentaient ces différentes épreuves du point de vue humain? Expliquez pour nos auditeurs.
Bien, au point de vue humain, c'était des symboles. Par exemple, l'épreuve de l'air, c'était pour montrer que nous sommes légers puis qu'on devrait avoir plus de sérieux. La coupe d'amertume, bien, en somme, c'était pour donner un goût qui devait faire face aux différents problèmes que nous avons envisagés.
Mais la coupe d'amertume, vous parlez de la coupe d'amertume, qu'est-ce que c'était exactement, du point de vue concret?
Au point de vue concret, évidemment, c'est que l'initiation même était avec les yeux cachés. Alors, on faisait lever la main à chaque initié en lui présentant un gobelet. Après ça, on lui disait « buvez, buvez, buvez ». Alors là, on donnait la nomenclature ou la définition, qu'est-ce que voulait dire exactement, la coupe d'amertume. Alors, c'était amer, parce qu'on devait faire face aux différentes épreuves de la vie en se rappelant cette coupe d'amertume. La cérémonie finie, les différents membres étaient orientés, dirigés dans les différentes cellules. Mais tout ça avec très discret. On demandait le secret.
Oui, le secret, et ça aura duré pendant plusieurs dizaines d'années. L'ordre aura existé pendant 40 ans, dans le secret comme ça, mais il y a quand même eu des réalisations qui sont attribuées à l'ordre de Jacques Cartier et Hugues Théoret. Lesquelles, par exemple?
Bien, d'ailleurs, on doit dire que d'une part, il y en a qui ont un peu exagéré les réalisations de l'ordre, puis d'autre part, il y en a qui ont vraiment carrément dénigré. Bon, c'est sûr qu'il y avait tous des intérêts, mais... Pour être objectif, là, on peut dire que, sans exagérer les réalisations, ils ont quand même fait des réalisations importantes, là, des gains importants. Ils ont contribué à la fondation d'organismes connus comme les clubs Richelieu, mais obtenu des gains importants pour les francophones, comme à Ottawa, la nomination d'un évêque francophone au diocèse d'Ottawa. La création, c'est pas rien. Aujourd'hui, ça a l'air évident, là, mais en 1927, c'était pas simple. C'était pas évident d'avoir un timbre-poste bilingue, hein, 1927, dans le cadre de commémoration de la fondation du Canada. La monnaie bilingue, l'expansion des caisses populaires des jardins. Les caisses populaires, je ne veux pas faire de la pub, là, mais les caisses populaires des jardins, c'est beaucoup l'ordre de Jacques Cartier qui est derrière ça, puis l'Église catholique. Mais aussi, de façon plus concrète, l'adoption du Fleur-de-Lys en 1948 comme le drapeau officiel du Québec. Donc, ça vient, c'est une réalisation de l'ordre.
Ah oui?
Puis quand on leur place dans le contexte, René Chaloux, qui a eu le premier l'idée, bon, une idée que le premier ministre Duplessis s'est appropriée, mais ça venait de René Chaloux, là. Donc, ça venait de gens de l'ordre de Jacques Cartier. Autre chose aussi, l'ouverture de l'Université de Moncton, le nom du pont Champlain à Montréal, à l'origine, on voulait donner un nom anglophone, puis c'est l'ordre de Jacques Cartier qui était derrière ça. Je pense au Collège militaire royal de Saint-Jean. T'sais, on se disait, voyons, ça n'a pas de bon sens qu'on forme des officiers à Kingston, puis dans la région de Victoria, Colombie-Britannique, puis on parle très peu le français, donc ils vont beaucoup pousser au sein des forces armées canadiennes, puis à haut niveau pour ouvrir le Collège militaire royal de Saint-Jean en 1952. Donc, beaucoup de réalisations, certains qui ont un peu dénigré, d'autres qui ont un peu exagéré, mais on peut dire que l'ordre a joué un rôle important pour l'avancement des Canadiens français à l'aube de la Révolution tranquille.
L'ordre s'est éteint en quoi, 1965?
Oui.
Comment ça a pris fin? Il y a des secrets qui ont été dévoilés à un moment donné?
Bien, c'est un peu ça, parce qu'on se rappelle, la devise, c'était religion, fraternité, discrétion. Je veux dire, une société secrète, ça repose sur sa survie, tout ça, puis sa santé. Ça repose sur la discrétion. Et, en fait, le plus grave danger qui a toujours guetté l'ordre, c'était ça, c'est chez des tracteurs. Puis c'est sûr que, comme c'était très... le pouvoir était très concentré à Ottawa, il y avait toujours des moutons noirs, si vous voulez. Mm-hmm. Et quand on chassait des... pour tout ça, abus d'alcool ou mauvais comportement, c'était très strict, on pouvait chasser des membres là, de l'ordre, là. Bien, souvent, ils se vengeaient de cette façon-là. Puis c'est un petit peu ce qui va arriver, les détracteurs qui vont dévoiler les secrets de l'ordre. Je pense notamment à Charles-Henri Dubé, qui, en 1963, va dévoiler, imaginez, les secrets de la patente dans un article publié dans le magazine Maclean's, qui est un peu l'actualité d'aujourd'hui. Oui. Ça avait été percutant, la vérité sur l'ordre de Jacques Cartier, donc le titre. Il va raconter toute l'histoire de la société secrète depuis ses débuts, dévoiler les structures, décrire son réseau d'influence. L'année suivante, deuxième coup de semonce, et encore plus fort celui-là, Roger Cyr, un ex-membre montréalais déchu, qui va, après avoir publié une série d'articles dans le journal La Patrie, va publier un livre aux éditions du Jour intitulé « La patente, tous les secrets de la maçonnerie canadienne-française ». Il dénonce les dirigeants de l'ordre, il les ridiculise à quelque part. Et c'est là qu'on va adopter, là, d'ailleurs, l'expression « les patenteurs », là, qui était assez péjoratif pour décrire les membres de l'ordre de Jacques Cartier. Le fait d'avoir dévoilé les secrets et toute cette critique-là dirigée envers l'organisation, bien, c'est sûr que ça témoignait d'un mécontentement des membres, surtout à l'égard de la chancellerie. Hein, comme je l'ai expliqué, les pouvoirs étaient très concentrés à Ottawa. Ça va vraiment être le début de la fin de l'ordre de Jacques Cartier. Et il faut mettre ça dans le contexte aussi. Hein, l'ordre de Jacques Cartier, c'est un organisme qui n'avait pas évolué avec la Révolution tranquille. C'est l'époque de l'éveil du nationalisme québécois, les années 60. L'ordre va rester avec ses vieilles valeurs, le catholicisme, des valeurs très traditionnelles. Puis avec la montée du nationalisme, il va y avoir aussi des grosses frictions au sein de l'ordre, on doit dire. D'une part, des gens qui étaient... surtout pas indépendantistes québécois. Donc, il y en a qui étaient plus pour que le Québec, on reste dans le Canada. Puis, il y avait aussi beaucoup de franco-ontariens qui étaient totalement opposés à ce projet-là. Donc, ça aussi, ça va jouer dans l'éclatement de l'ordre qui va finalement se faire à Rockiri lors d'un congrès là, en, 1965. Donc, on va tenter par tous les moyens de vouloir de sauver l'ordre, mais il est trop tard, comme un, moi, je dirais, comme un vieux rafio s'enlever à l'importance de l'ordre là, qui va couler à pic en 1965.
Et on sentait déjà que le secret autour des rencontres, par exemple, de l'ordre, était déjà peut-être un peu moins serré. Il y a même un journaliste de la presse qui a réussi à écouter une assemblée en cachette comme ça en 1965. Il a raconté son aventure à Gilles Constantino. On écoute donc Jean-Louis Arcand, qui était journaliste à la presse à l'époque.
Jean-Louis Arcand, dites-moi comment vous êtes arrivé à assister à une partie de cette fameuse assemblée.
Bien, je me suis présenté. J'ai essayé de pénétrer par l'entrée où entraient tous les autres membres, normalement.
L'entrée de la salle de récréation de l'école?
Non, l'entrée principale elle-même était bloquée par une série de tables, une pile de tables qui était placée le long des portes. Il fallait entrer par un petit vestibule qui donne aussi sur la salle de toilette. Puis là, il fallait présenter une lettre de convocation. Alors, comme je n'avais pas la lettre, on m'a refusé l'accès. Je me suis même présenté comme journaliste. Puis évidemment, il n'était surtout pas question qu'on laisse entrer un journaliste. Alors, j'ai dû utiliser certains subterfuges, j'ai fait le tour, j'ai vu que toutes les entrées étaient bloquées, mais sauf une que j'ai pu découvrir, par laquelle je me suis glissé, j'ai pu, sans voir les orateurs, toutefois, écouter ce qui s'est dit.
Vous avez écouté aux portes, quoi.
Voilà, c'est ça.
Alors, dans les grandes lignes, qu'est-ce que vous ont révélé vos 30 minutes de présence derrière cette porte?
Ben, ça m'a révélé surtout que, même si on a dit que la patente, l'ordre de Jacques Cartier, était dissous, au Québec même, l'organisme survit très bien. Enfin, la section québécoise continue à opérer en utilisant tous les effectifs des gens en place.
Alors, on sent que, oui, ça survit, mais que ça vivote un peu. En 1965, on le soulignait, l'Église est en perte de vitesse, donc il y avait cet élément-là. Est-ce que... comment se serait transformé l'ordre de Jacques Cartier? Qu'est-ce que ses membres ont fait par la suite?
L'ordre de Jacques Cartier, donc les commanderies là, de l'ordre de Jacques Cartier, va d'abord se replier sur l'Ontario, sur la région d'Ottawa. Donc, ils vont survivre, les commanderies de l'ordre de Jacques Cartier qui va tenter de survivre, là, si vous voulez, mm-hmm. autour de la chancellerie d'Ottawa. On va essayer, d'ailleurs, on va proposer dans les, justement, qu'il y ait des commanderies par région, là, tu sais, une commanderie de l'Acadie, du Québec, donc... Mais ça va pas continuer, ça va pas durer. C'est comme si la nation canadienne-française n'existait plus avec mm-hmm. la montée du nationalisme québécois. Cette nation canadienne-française-là qui avait subsisté. Mais c'est faut voir ça aussi, il faut placer ça dans ce contexte-là aussi, la dissolution de l'ordre de Jacques Cartier. C'est comme si on n'avait plus ce ciment-là, si vous voulez, pour tenir toute cette nation-là canadienne-française qui avait vécu hein, au-delà des frontières provinciales depuis... Bon Dieu, depuis la conquête,
ben oui.
Je dirais. Depuis la conquête, mais c'est dans tout ce contexte-là qu'il faut situer donc la dissolution de l'ordre de Jacques Cartier en 1965.
Et donc, un appel à la modernité qui n'aura pas été entendu, qui aura finalement mené à cette dissolution. Hugues Théoret, je rappelle que vous êtes historien et auteur dans nos studios d'Ottawa. Merci beaucoup d'avoir été là.
Ça me fait plaisir.
À bientôt.
Au revoir.
Voilà, c'est tout pour nous. Merci à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Martin Labrosse. Je vous dis à très bientôt.
Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.